Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Cet entretien avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, a été enregistré le 9 mars 2011 à l'évêché de Bayonne. Par avance, nous nous excusons de la qualité très moyenne de cet enregistrement qui n'a pas été effectué dans nos studios comme à l'habitude, mais à l'évêché de Bayonne.
Nous sommes entrés en carême depuis le 9 mars et nous sommes pour l'entretien du mois avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également avec Olivier Drapé, le délégué épiscopal à l'information et à la communication. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors Monseigneur Haillé, pour commencer cette émission, on ne peut pas ne pas parler du temps liturgique dans lequel nous sommes rentrés. Alors peut-être en deux mots, rappelez-nous quels sont les objectifs du carême. Et quels conseils vous nous donneriez pour vivre un bon carême et pour vous préparer à Pâques?
Bon, comme vous le savez, le carême est un des grands temps forts de l'année liturgique au cours de laquelle les chrétiens sont appelés à approfondir la grâce de leur baptême. Hein, sachant qu'au terme du carême, pendant la veillée pascale, les fidèles seront invités à rénover les promesses de leur baptême. Donc je dirais que c'est comme un catéchuménat pour les baptiser, de la même manière que c'est la dernière ligne droite de la préparation au baptême pour les catéchumènes adultes qui vont, pendant ces jours, davantage éprouver leur faiblesse à travers les scrutins et mieux ouvrir leur cœur à la miséricorde qui leur est faite gratuitement par Dieu, qui vient les sauver et leur donner la grâce d'être enfants de Dieu. Donc j'invite évidemment les fidèles à entrer de manière très sérieuse dans ce temps qui est un temps d'entraînement spirituel, qui est un temps de combat spirituel aussi, hein, comme nous le voyons bien dans l'évangile de la tentation au premier dimanche de carême. Je les invite particulièrement à lire avec attention le message que le Saint-Père a adressé à l'Église universelle pour ce carême, qui trace un itinéraire d'initiation chrétienne à travers les évangiles des cinq grands dimanches, premiers dimanches de carême, et qui montre aussi l'importance du jeûne, de la prière et de l'aumône. Et je trouve que dans ce message, il invite surtout à l'intériorité. Il invite vraiment à approfondir de manière très profonde cette communion avec le Fils de Dieu qui a été instauré pour chacun de nous au jour de notre baptême. En particulier par une attention à la parole de Dieu. Pour chaque jour de du carême, le Seigneur nous donne une parole par laquelle le Seigneur parle à notre cœur, nous guide, nous façonne et nous fait entrer toujours plus dans son intimité. Et puis, j'inviterai aussi les paroisses, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à travailler ma lettre pastorale. Hein. J'ai publié déjà depuis quelques mois une lettre pastorale dans laquelle j'ai invité à une réflexion sur la mission, sur son ressourcement dans la vie intérieure précisément, sur sa condition qui est la communion entre nous, hein, quelles que soient nos différences de charisme, de sensibilité, et j'invite vraiment les curés et les fidèles à se réunir spontanément ou de manière organisée dans les paroisses pour lire ensemble la lettre pastorale. Vous savez que c'est, comme tout document d'église, c'est pas un texte qu'on reçoit tout seul dans son coin, c'est adressé à une communauté, et donc c'est en communauté qu'on le reçoit et qu'on le lit et qu'on le travaille, pour évidemment entreprendre, instaurer un dialogue hein, pastoral, mais aussi pour voir comment concrètement on peut mettre en œuvre ce nouvel élan demandé.
Monseigneur Haillé, je vais vous demander un point concret pour nous aider à entrer à Grammes. Finalement, vous nous dites acheter ma lettre pastorale.
Non, je ne dis pas d'acheter la lettre pastorale parce que je pense que c'est déjà fait.
Nous allons, au cours de cette émission, revenir sur quelques événements qui ont marqué la vie de notre diocèse et la vie de notre évêque. Nous allons parler aussi un peu de l'actualité du monde et des actualités nationales. Et puis, nous ferons un tour des événements à venir. Alors revenons sur la journée de la vie consacrée qui est célébrée dans l'église le 2 février normalement. Et vous aviez invité les consacrés du diocèse à Pau et à Bayonne.
Voilà, et nous avons un peu innové cette année puisque nous avons dédié une journée à peu près complète à Pau comme à Bayonne avec les consacrés, avec des temps de carrefour et donc de partage et de remontée ensuite sur un petit questionnaire qui avait été confectionné par le comité diocésain de la vie consacrée hein, au préalable, et qui avait déjà été d'ailleurs un peu travaillé dans chacune des communautés, qui tournait autour du thème de l'évangélisation. Hein, comment, dans la vie consacrée, on s'engage dans cette mission d'annoncer l'évangile, comment notre charisme, le charisme de nos fondateurs, peut y aider hein, puissamment, et puis comment les laïcs qui sont associés souvent à nos congrégations, à nos communautés, eh bien, ils puisent aussi dans ce compagnonnage avec nos communautés de vie consacrées, la source de leur mission.
Combien de consacrés y a-t-il entre diocèses? Est-ce que vous le savez?
Alors, je ne saurais pas dire le chiffre. Vous savez que, pour la petite anecdote, on dit toujours quelles sont les trois choses que le Père éternel ne sait pas. Et parmi ces trois choses, on dit le nombre de congrégations féminines. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de consacrés. Hein. De fait, des représentants seulement des communautés étaient présents à ces deux journées. Et on avait quand même bien presque 200 personnes en tout.
Monseigneur, vous avez accompagné, les séminaristes vous ont accompagné à Rome pour un pèlerinage qui avait lieu au mois de février pendant plusieurs jours. Nous l'avions évoqué lors de notre dernier entretien, c'était en cours donc de préparation et d'organisation. Comment s'est passé ce pèlerinage à Rome? Qui avez-vous rencontré? Avez-vous rencontré le pape? Comment cela s'est-il passé?
Alors nous avons en effet ensemble fait un pèlerinage, j'allais dire, aux sources de la foi de l'Église, puisque nous avons commencé par, visiter le tombeau de Saint-Pierre, hein, qui se trouve être à la basilique Saint-Pierre du Vatican, et nous avons eu la grâce de pouvoir visiter les fouilles sous Saint-Pierre, et vous savez que, selon l'audace à la fois scientifique et spirituelle du pape Pie XII, les fouilles ont été entreprises hein, dans les années 50 et on peut dire aujourd'hui avec une quasi-certitude que c'est vraiment le lieu où l'apôtre a été enterré, comme l'attestait une tradition orale hein, et qui était bien établie bien sûr, et aussi à travers la succession des édifices qui ont été construits sur ce lieu et donc que les reliques même de Saint-Pierre sont vraiment présentes. Alors ça c'est très émouvant de faire ce petit pèlerinage dans cette nécropole d'abord païenne puis chrétienne jusqu'à ce mur des graffitis au-dessus du tombeau de Saint-Pierre où l'on aperçoit une petite boîte en plexiglas où se trouvent les reliques de l'apôtre, hein, du premier apôtre. Alors c'est très important parce que comme vous savez, comme disent les pères de l'Église, ubi est Petrus, ibi est Ecclesia, hein, où est Pierre, là est l'Église. Et donc c'est une phrase qui était très importante au moment des fouilles archéologiques et qui se s'avère corroborée. Donc nous avons d'abord été aux sources de la foi de l'apôtre Pierre hein, et de Paul. Et nous avons célébré la messe dans les grandes basiliques majeures, Saint-Pierre du Vatican, Saint-Paul hors les murs, Sainte-Marie majeure et Saint-Jean de Latran qui est la cathédrale du pape. Mais nous avons aussi rencontré le successeur de Pierre, bien sûr, au cours de son audience générale du mercredi, où il donne une catéchèse hein, au peuple de Dieu, et nous étions évidemment très bien placés, j'ai même pu présenter un des séminaristes qui a offert au pape l'histoire du diocèse de Bayonne, écrite par M. Goiti, et j'ai signalé au pape que ça avait été l'objet d'une thèse de doctorat en droit canonique, qui avait été brillamment soutenue par le chanoine Goiti à 84 ans, et donc il a été très impressionné en universitaire qu'il est. Et nous avons aussi rencontré beaucoup de collaborateurs du pape, et je crois que c'était important pour ces séminaristes de sentir battre le cœur de l'Église à travers ces hommes qui sont à des postes élevés hein, de l'administration centrale de l'Église, mais qui sont d'abord des prêtres, qui sont d'abord des chrétiens et qui témoignent de leur amour du Christ et de leur amour de l'Église. Une des visites qui a beaucoup marqué, comme les autres sans doute, mais une en particulier, c'est que nous avons fait la visite du cardinal Etchegaray, hein, qui est quand même un fils de notre diocèse, et qui leur a fait un très beau témoignage pendant une heure, en laissant parler son cœur, et à travers un homme âgé, hein, et assez fatigué, et puis quand même assez diminué physiquement, c'est toute la flamme d'un séminariste, j'allais dire, qui passe, et qui leur dit « c'est toujours le beau temps pour être prêtre ». Voilà, ils ont été très, très marqués aussi par la rencontre d'autres collaborateurs du pape, comme le cardinal Piacenza, comme Mgr Fisichella, qui est le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, le cérémoniaire du pape, avec lequel ils sont restés pendant 2 heures, qui leur a parlé de liturgie, de ce que c'était que la liturgie, comment le pape célébrait, comment, dans quelle disposition il était, tout ça a été vraiment très, très touchant même, et je pense que c'était une belle expérience d'église pour ces séminaristes.
De Rome, nous passons à l'Arcevaux. Vous étiez en visite pastorale à la paroisse Saint-Michel-Héricoltz d'Ostabaré, l'Arcevaux, du 23 au 27 février. Alors, comment s'est passée cette visite et qu'est-ce que vous avez découvert là-bas?
Alors, c'est, pour moi, ça a été une grande découverte. Hein. Je connais, commence à connaître le diocèse. Et puis, je sillonne pas mal les différentes paroisses du diocèse. Mais je n'avais encore pas passé un temps aussi long, pendant 5 jours, dans une paroisse vraiment du Pays Basque intérieur. Hein. Donc, c'est quand même au Stabat, là que les chemins de Saint-Jacques se rejoignent, avant de partir vers Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est Ibar, le lieu de naissance de Saint-Michel Garicoïtz. C'est l'Arcevaux, etc. Bon, c'est une petite paroisse que Saint-Michel d'Ostabaret, hein, avec 1600 habitants peut-être en tout. Mais alors, un contact très impressionnant avec 75, j'ai dit 72 parce que j'ai voulu les mettre en lien avec les 72 autres disciples envoyés par Jésus lors de la première soirée avec les engagés de la paroisse. Nous avons parlé de nouvelle évangélisation et j'ai senti que le message était vraiment passé. D'ailleurs, j'ai reçu du courrier depuis dans ce sens. J'ai rencontré aussi beaucoup d'agriculteurs, parce que c'est vrai que là, l'agriculture est au cœur de ces villages, comme l'activité principale. Et j'ai rencontré les jeunes qui ne sont pas nécessairement à l'église, mais qui font partie des comités des fêtes. Ils étaient comme une cinquantaine à répondre à l'invitation de l'évêque. Ils ont passé une soirée ensemble. J'ai découvert les talots, hein, ou les talois, je ne sais pas comment il faut dire. Donc ça manquait encore à mon expérience. Et puis j'ai vu ces jeunes, et là, ça a été pour moi une grande découverte, parce que j'ai senti des jeunes qui étaient très attachés à leur territoire, qui travaillent presque tous dans l'agriculture, reprenant l'exploitation familiale ou travaillant encore avec leurs parents. Même quand ils sont en seconde à Saint-Palais, ils n'ont qu'une idée, c'est d'être agriculteur. Ou alors ils sont dans le métier du bâtiment, mais sur place, ou dans la grande laiterie de l'Arcevaux, qui quand même réunit 120 salariés hein, du territoire. Et j'ai vu combien ces jeunes n'ont pas coupé avec leurs racines, avec leur culture. C'est vrai aussi à travers le lien décomplexé avec les autres générations, et donc aussi avec la foi et avec l'Église, hein, bien sûr, qui se rappellent leur baptême, leur catéchisme, leur profession de foi, leur confirmation. Ce ne sont sûrement pas des piliers d'Église, mais ils sont extrêmement réceptifs. Nous avons eu un échange très, très, très beau. Et pour moi, ça a été vraiment une grande grâce de découvrir une communauté humaine, chrétienne, qui est vraiment enracinée. Et voilà. Donc, je pense que là, il y a vraiment beaucoup d'espérance à travers des communautés chrétiennes comme celle-là.
C'est dans cette paroisse que le diocèse va aider, en tout cas, à la construction d'un centre pastoral.
Voilà, donc est en construction actuellement un petit centre pastoral qui comportera un appartement pour le curé et puis des salles pour recevoir les enfants du catéchisme ou les paroissiens quand ils seront rassemblés en plus grand nombre.
Alors, je sais que vous avez fait beaucoup de visites dans les familles lors de
oui, de beaucoup de visites. Ouais. J'ai visité beaucoup de maisons tout à fait typiques hein, au Pays Basque de manière générale, mais ces maisons banavaraises là. J'ai visité des malades, j'ai visité beaucoup de fermes, et ça aussi, ça a été très très riche, des rencontres extrêmement riches et qui m'ont fait encore plus sentir l'âme de ce Pays Basque.
Êtes-vous plus à l'aise à Rome ou à l'Arcevaux?
Je suis aussi à l'aise à Rome qu'à l'Arcevaux, parce que, comme je voulais le dire tout à l'heure, mais à l'Arcevaux, c'est la même foi qu'à Rome. Hein, et finalement, je me dis, l'Église universelle, elle est présente à travers les églises locales, ça c'est théologique, hein, bien sûr, et c'est toujours la même Église universelle qui est incarnée dans cette communauté chrétienne du Pays Basque intérieur de l'Arcevaux.
Monseigneur, un certain nombre de prêtres du diocèse ont pris part le 28 février à Pau et le 1er mars dernier à Bayonne à une session organisée dans le cadre de la formation permanente des prêtres, et je crois que vous y étiez vous-même présent. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors j'avais de fait pour ces 2 journées de formation permanente des prêtres, qu'on l'avait décidé en conseil épiscopal, mais j'avais invité les responsables de l'Alliance pour les droits de la vie, qui est une association apolitique et aconfessionnelle, mais qui est quand même d'inspiration chrétienne, et qui travaille précisément à promouvoir la culture de la vie à travers un certain nombre d'actions auprès des parlementaires, des élus, des politiques, de manière assez efficace d'ailleurs. On l'a vu dans les derniers projets de loi, que ce soit la loi Leonetti en 2005, Xavier Mirabel, qui est le président de cette association et qui animait aussi cette journée de formation, a été auditionné à plusieurs reprises par le Parlement. Donc ce sont des gens compétents et bien reconnus. Et en même temps, ce sont des hommes et des femmes qui ont d'abord le souci des personnes et qui ont tout un travail d'écoute, d'accompagnement, des détresses dans le domaine de la vie, que ce soit autour de l'avortement, autour de la fin de vie, autour de l'infertilité, de toutes ces questions qui sont évidemment au cœur des débats de la loi de bioéthique qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Et je pensais que justement, étant de l'actualité bioéthique, je dirais, c'était important d'aider les prêtres à réfléchir sur cette question. Et ce qui m'a beaucoup plu, et je crois que les prêtres ont été très touchés de cette approche, c'est qu'ils ont une approche finalement très, très pastorale, sous prétexte de rappeler un certain nombre de choses, à la fois scientifiques, juridiques, éthiques, bien entendu, sur ces questions de la vie, commençantes et finissantes. Leur approche était essentiellement sous forme de témoignages, de rencontres avec beaucoup de personnes, car ils ont enfin, une expertise au niveau de la rencontre des personnes. Et j'en parlais avec quelques prêtres après, qui avaient été très, très touchés, très séduits par cette approche des problèmes de la vie, et même un curé de paroisse qui me disait alors qu'est-ce qu'on fait après, hein? Est-ce qu'on donne une suite concrète à ce que nous avons vécu? J'ai d'ailleurs été très frappé parce que les intervenants ont commencé par interroger les prêtres pour qu'ils se présentent, en disant qui ils étaient, et en leur demandant de leur confier la question autour de la vie qui les préoccupait dans leur ministère pastoral. Et pour moi, évêque, c'était très important aussi d'entendre les prêtres parler comme des pasteurs, hein, qui disent leurs soucis, leurs difficultés, et Dieu sait si nous en connaissons dans ces domaines, hein, des personnes qui viennent à nous. Et c'était très enrichissant aussi pour moi de ce côté-là, et ce qui a permis de fait de déployer toute cette journée autour des questions, encore une fois, de l'avortement, de la fin de vie, de la bioéthique, à partir de ces questions pastorales des prêtres.
Dernier événement sur lequel nous allons revenir, Monseigneur, c'est la fête de Saint-Léon, qui a été solennisée le dimanche 6 mars à la cathédrale de Bayonne. Alors, comment avez-vous vécu cette fête, puisque vous aviez en plus invité le cardinal Jean-Pierre Ricard?
Voilà, alors chaque année, donc, je sais que depuis des années, pour cette fête de Saint-Léon, qui est le patron de Bayonne, mais donc du diocèse, qui est le fondateur du diocèse de Bayonne, on invitait une personnalité ecclésiale, un évêque. Ou...
Il ne faut pas oublier qu'à Anglette aussi, Saint-Léon est très vénéré.
Voilà, alors à Anglette, il y avait aussi la fête. Hein. Mais à Bayonne, donc, puisque c'est quand même le siège cathédral, donc, puisque c'est le fondateur du diocèse, j'avais invité le cardinal Jean-Pierre Ricard, qui est notre archevêque métropolitain. J'étais très ému de le recevoir dans cette cathédrale pour la deuxième fois, comme il l'a lui-même signalé au début de la célébration, puisque c'est par lui, par l'imposition de ses mains, que je suis entré dans la succession apostolique comme évêque de Bayonne, dans la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Et donc il a présidé la messe solennelle le matin, avec une très belle homélie, sur l'Évangile, hein, et sur l'importance d'incarner la parole de Dieu dans notre vie concrète. Et puis l'après-midi, donc on avait un petit peu innové cette année, avec une conférence publique sur le thème de la visibilité ecclésiale, le témoignage évangélique, quelle visibilité pour l'Église dans un monde en crise, et où je dois dire, sans l'avoir demandé, hein, mais j'étais touché qu'il cite à plusieurs reprises ma lettre pastorale, invitant d'ailleurs les auditeurs à s'y référer sur cette question de l'évangélisation, qui, comme vous le savez, est vraiment au cœur de nos préoccupations, et parce qu'elles sont au cœur des préoccupations de l'Église, et on le sait bien, puisque nous venons de recevoir les lineamenta, c'est-à-dire les orientations pour le prochain synode des évêques qui aura lieu à Rome en octobre 2012 sur le thème de la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. Et donc ça s'est terminé par les vêpres solennelles. Alors la messe était rehaussée par la présence du chœur Charamella. C'était très très beau. Et puis la maîtrise qui, pour la deuxième fois disons, mais de manière un peu plus importante, participait, animait les vêpres. Alors c'était assez beau de voir ces enfants et ces adultes qui avaient bien travaillé. Peut-être que dans leur enthousiasme, ils ont beaucoup chanté et que l'assemblée a peut-être moins chanté, donc il y aura certainement un équilibrage à faire certainement pour la suite. Mais en tout cas, c'était une belle première et qui, je crois, a ravi pas seulement les oreilles, mais a ravi les cœurs. Je sentais que les gens étaient bien entrés aussi dans la ferveur.
Monseigneur, je vous propose d'évoquer quelques sujets d'actualité qui ne manquent pas, que ce soit l'actualité nationale ou internationale. Peut-être d'abord l'internationale avec ce qu'on peut appeler le printemps arabe, c'est-à-dire ce mouvement très important de levée en masse des peuples arabes et de lutte contre les dictateurs ou le pouvoir corrompu tel qu'on l'a vu en Égypte et en Tunisie. Actuellement, une situation très tendue en Libye. Est-ce que cette situation vous inspire une réflexion particulière? Est-ce qu'en tant que chrétien, vous pensez qu'on doit avoir une certaine approche de ces événements?
C'est sûr que pour l'instant, on assiste. Hein. D'abord, il y a eu, comme vous dites, le printemps arabe en Égypte et en Tunisie, qui nous montre une fois de plus qu'un pouvoir autoritaire, dictatorial, fondé sur des principes qui ne sont pas respectueux de la dignité de la personne humaine, et qui en plus n'ont pas beaucoup de valeurs profondes et spirituelles à proposer, finit toujours par tomber, et qu'un peuple finit toujours par secouer ce joug. Il se trouve qu'en Égypte et en Tunisie, finalement ça s'est fait sans trop de violence, et sans trop d'effets collatéraux, semble-t-il, et que les dictateurs en question ont fini par remettre leur pouvoir entre les mains du peuple, si je puis dire. Bon. Maintenant, je pense bien que la communauté internationale est quand même aux aguets. Hein. Y a-t-il des personnes qui ont été formées pour asseoir une démocratie? La démocratie en question peut-elle être semblable aux démocraties occidentales? Nous sommes comme dans des pays qui sont à majorité musulmane, et il est évident que le thème de la laïcité et la démocratie ne se décline pas de la même manière dans ces pays-là que dans nos pays d'Occident, et donc il faut être très attentif. Qui va prendre le dessus? Est-ce qui pourrait aussi se comprendre? Est-ce que c'est la religion qui a quand même été assez matée d'une certaine manière par les pouvoirs autoritaires en place jusque-là, après l'indépendance de ces nations? Est-ce que ce sentiment religieux qui monte dans les pays musulmans va être satisfait par une démocratie occidentale? Nul ne peut le dire aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut être très attentif. Et nous, ne pas oublier nos chrétiens, hein, et nos chrétiens en Égypte en particulier, chrétiens coptes, orthodoxes en majorité sans doute, mais pour qui la liberté religieuse n'est toujours pas acceptée. Alors, auront-ils davantage de liberté parce que le joug de l'autoritarisme a été secoué? C'est une chose qui doit aussi nous intéresser aujourd'hui, alors que la communauté internationale commence un peu à s'intéresser au sort de ces minorités religieuses opprimées et persécutées. Quant à la guerre civile en Libye, on a affaire en effet là à un dictateur qui en plus est quand même quelqu'un d'extrêmement dangereux, et on le voit, qui n'hésite pas à utiliser l'armée contre son propre peuple. Donc ça c'est quand même dramatique. Et si lui négocie aujourd'hui son départ, on se demande pourquoi il sacrifie des vies pour le panache, quoi. Donc là, je ne sais pas du tout ce qui peut en ressortir. La Libye, en plus, est un pays encore beaucoup plus différent, où il y a, je pense, des clans, je ne sais pas si on peut dire des tribus très différentes et très opposées déjà. Et c'est la force qui les maintenait dans l'unité. Alors, qu'est-ce qu'il en adviendra? Ça, je ne saurais pas le dire non plus, parce que je ne suis pas suffisamment politologue.
Que pensez-vous, par exemple, des ventes d'armes dans le monde, quand on sait que, par exemple, ce qui meurt en Libye aujourd'hui, c'est bien souvent par des armes vendues par les pays occidentaux?
Mais c'est évident. Là, on sait bien, hein, que toutes les révolutions, toutes les répressions sont évidemment liées à des commerces d'armes qui sont honteux. Et on voit bien que les relations des États occidentaux avec les pouvoirs autoritaires en place et aujourd'hui avec les nouvelles démocraties se font toujours quand même, malheureusement, avec des grandes déclarations sur la dignité de la personne humaine et la liberté de conscience et la liberté religieuse, mais toujours quand même sur fond de commerce, et de commerce d'armes en particulier. Et l'Église est toujours là, présente, pour dire qu'il faut cesser ces commerces iniques.
Monseigneur, le président de la République, Nicolas Sarkozy, est à l'origine d'un débat sur l'islam et la laïcité. Que pensez-vous de ce débat, de l'opportunité de ce débat? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a derrière peut-être un calcul électoral? Est-ce que la crainte de l'islam vous paraît justifiée? Est-ce qu'il y a un danger sur la liberté religieuse qui pourrait aussi avoir un impact pour les chrétiens?
C'est difficile de ne pas voir, en effet, et là j'avance quand même doucement, des intentions politiques. Hein. C'est évident qu'il y a aujourd'hui en France une inquiétude, pour ne pas dire une peur, mais qui existe aussi, en particulier dans certains quartiers, plus sensibles par rapport à ce qu'il convient d'appeler maintenant la montée de l'islam en France. C'est vrai qu'il y a une inquiétude, parce que on sait bien que les musulmans ne doivent pas être confondus avec l'islam en lui-même, et que souvent les communautés musulmanes qui sont rassemblées en communautés assez identitaires, dans un certain nombre de quartiers sensibles, les grandes villes en particulier, sont souvent menés en ce moment par des fondamentalistes, des imams qui assurent une certaine police, hein, on le sait, sur les autres, jusqu'à un certain terrorisme quand même, on peut le dire, hein, vis-à-vis de leurs propres congénères. Et c'est vrai que c'est une situation qui inquiète. La question de la laïcité ne se traite pas non plus en islam comme en christianisme, et il n'y a pas du tout de séparation entre le politique et le religieux dans l'islam, comme on le sait. Donc la vie religieuse musulmane comporte aussi des modes de vie sociales et politiques qui sont propres et très identifiés. Donc c'est vrai que tout candidat aux élections présidentielles de 2012 va surfer nécessairement sur cette inquiétude sécuritaire des Français qui, aujourd'hui, risquent de stigmatiser aussi une communauté. Hein. C'est toujours aussi le risque, comme on le sait bien. En même temps, c'est vrai que la montée de l'islam en France est pour nous quand même une question qui nous renvoie à notre propre identité, à nos propres racines culturelles. Il ne s'agit pas seulement de le dire de manière incantatoire, mais et à notre propre foi chrétienne. Hein, en quoi notre foi est encore source de vie et de vie sociale, et est encore source de culture au sens le plus noble du terme. Comment l'Évangile, qui est à l'origine de notre culture d'aujourd'hui, la culture du respect de la dignité de la personne humaine, de l'entraide, de la solidarité, d'un horizon aussi à donner à notre vie, hein, qui dépasse les limites de notre vie terrestre, en quoi cette foi s'incarne-t-elle vraiment dans la vie des chrétiens et dans la vie de la société par le témoignage des chrétiens. Donc moi je dis, indépendamment du débat politique qui n'est pas premier pour moi, je me dis que la montée de l'islam est pour nous un formidable défi à l'évangélisation. Hein, et pour annoncer l'évangile, il faut évidemment être habité par l'évangile et convaincu de sa foi.
Monseigneur Hayet, nous allons maintenant égrener quelques rendez-vous à venir, notamment dans le diocèse. Alors commençons par un événement important qui se déroule d'habitude le premier dimanche de carême.
Oui, alors qui malheureusement a été différé au deuxième dimanche de carême, parce qu'il se trouve que je vais prêcher une retraite au Cameroun du 13 au 20 mars dans le cadre de la solidarité inter-église. Et donc c'est le deuxième dimanche de carême qu'aura lieu l'appel décisif de nos catéchumènes adultes que j'ai rencontrés, évidemment avec leurs accompagnateurs, toujours rencontre toujours très riche, hein, de témoignages magnifiques, et qui aura donc lieu à l'église Saint-Étienne de la paroisse Saint-Vincent de Paul de Bayonne.
Donc ce sera à 17h le dimanche 20 mars, et bien sûr tous les diocésains sont invités à entourer ces catéchumènes.
Oui, je crois que c'est très important, parce que les catéchumènes, dans leur découverte de la foi et dans leur recherche du Christ, nous précèdent, hein, et nous entraînent, nous aussi, les vieux baptisés, si je puis dire, qui voyons dans leur témoignage comment le Seigneur continue de toucher des cœurs dans des situations souvent improbables, et à travers des témoins aussi, hein, qui les entourent, en particulier pour les accompagner pendant tout le temps de leur catéchuménat. Et donc pour nous, c'est un formidable témoignage aussi pour raviver notre propre foi.
Alors le 19 mars, il y aura à Bordeaux, pour toute la région, un anniversaire.
Voilà, il y aura la célébration du 50e anniversaire du CCFD. Hein, nous avons des équipes du CCFD, tant au Béarn qu'aux Pays-Bas, qui sont très actives, qui mobilisent beaucoup de générosité. J'en ai rencontré aussi dans les paroisses, dans les plus petites paroisses, hein, des gens qui sont très engagés. Et donc cet anniversaire sera célébré sous la présidence du cardinal Jean-Pierre Ricard. Et moi-même, étant encore retenu en Afrique, c'est l'abbé Biche, vicaire général, qui est en charge de la solidarité dans le diocèse, qui me représentera pour cet anniversaire.
Quelques jours après votre retour d'Afrique, Monseigneur, vous effectuerez, comme à peu près une fois par mois, une visite pastorale dans le Béarn à Sainte-Marie-du-Hameau à Pau.
Voilà, vous voyez comme les visites pastorales se suivent et ne se ressemblent pas. Après le Pays Basque intérieur, je m'en vais vers le Béarn, puisqu'il y a une alternance hein, entre le Pays Basque et le Béarn, et cette fois dans une partie de la ville de Pau, qui est le nord de la ville, et qui est une partie très cosmopolite de Pau, hein, c'est quasiment la périphérie de Pau, au nord de Pau, et où je vais rencontrer d'ailleurs en particulier une communauté de Chaldéens, hein, qui ont été tellement éprouvés par l'attentat qui a eu lieu à la Toussaint dans la cathédrale syro-catholique de Bagdad.
Nous sommes actuellement dans une période de lancement de la campagne du denier de l'Église. Est-ce que vous souhaitez, Monseigneur, nous en dire quelques mots ?
Oui, je rappelle évidemment que depuis la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905, l'Église ne bénéficie d'aucune subvention de l'État, d'aucune subvention d'ailleurs non plus du Vatican, comme certains le croient naïvement, mais ne vit que de la générosité des fidèles. Et en particulier pour assurer un traitement décent pour ses prêtres, mais aussi pour ses laïcs salariés qui nous aident beaucoup dans notre pastorale hein, diocésaine. Alors je ne peux que recommander aux fidèles d'être vraiment attentifs à participer à cette œuvre commune, qui est une œuvre de solidarité, au service d'une église qui continue d'assurer des services, non seulement aux fidèles pratiquants réguliers, mais aussi à tous ceux qui, pour ne pas être des pratiquants réguliers, bénéficient des services de l'Église, chaque fois qu'ils le demandent, à des étapes importantes de l'existence humaine. Notre propos étant, bien sûr, non seulement de fidéliser les donateurs traditionnels, qui vieillissent forcément, et dont certains nous manquent aujourd'hui, mais de trouver de nouveaux donateurs dans des catégories plus jeunes, plus actives de la population, et qui n'en sont pas moins en lien avec l'Église, et qui peut-être ne savent pas qu'ils pourraient participer à la vie de l'Église.
Monseigneur, vous êtes, je crois, à l'origine d'une initiative dont on commence à entendre parler dans le diocèse, qui est l'ouverture au mois de septembre prochain d'un institut Samuel. De quoi s'agit-il ?
Alors, si vous voulez, c'est une initiative dont je me suis ouvert d'abord aux prêtres, c'était en juin dernier, dans un courrier, en leur demandant de me donner leur avis. Bon. Visiblement, ça n'a pas posé d'opposition, en tout cas, et on a pu en reparler au Conseil presbytéral. Et donc, je m'en suis ouvert aussi dans ma lettre pastorale, à propos de la pastorale des vocations, de l'idée d'ouvrir un internat de garçons qui serait ouvert à des jeunes de la 4e à la terminale, scolarisés dans des établissements catholiques de préférence, mais aussi, pourquoi pas, de l'enseignement public, qui manifesterait un vrai désir de vie chrétienne, pas nécessairement de vocation, au sens explicite du terme, même si c'est ouvert aussi aux jeunes qui, justement, précisément, ont un projet vocationnel, mais aussi à des jeunes qui voudraient vivre un projet de vie chrétienne, sans être arrachés à leur milieu scolaire ambiant, ce qui me semble très important, mais où ils auraient un lieu, un internat, à la fois pour le suivi d'études, pour des activités extrascolaires qui pourraient être complémentaires pour leur propre éducation humaine, mais aussi un accompagnement spirituel qui leur permettrait de vivre ensemble ce projet de vie chrétienne et évidemment de s'ouvrir à la parole de Dieu et éventuellement à l'appel de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu que cet internat, qui sera confié à un prêtre, l'abbé Jean-Yves Sabal, à un couple, qui sont déjà sur la maison diocésaine, eh bien, s'appelle l'Institut Samuel, du nom du petit Samuel dans l'Ancien Testament, à qui le prêtre Élie dit « Quand tu entendras à nouveau ton nom dans la nuit, eh bien, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Voilà, un lieu d'écoute de la parole de Dieu, et pour être ouvert à une éventuelle vocation. Je note que c'est une chose qui a lieu dans d'autres diocèses. Nous avons rencontré souvent le cardinal Ouellette, Marc Ouellette, qui est le nouveau préfet de la Congrégation pour les évêques, et qui vient de quitter son poste d'archevêque de Québec. Et il nous disait lui-même qu'il avait ouvert ce que lui appelle un petit séminaire, qui est en fait un internat du même type. Et il avait vu que, au début, ils étaient 12, aujourd'hui, ils sont 40, dans un diocèse où il n'y a quasiment plus de vocation au grand séminaire, et que ça a créé un lieu qui est non seulement un lieu d'éclosion des vocations pour ces jeunes, et donc de formation à la vie chrétienne, mais aussi un lieu d'évangélisation, parce que ça a créé tout un réseau de familles autour de ces enfants, et qui a eu un très bel impact pour diffuser aussi la foi et l'évangile dans tout ce milieu qui entoure les enfants.
Monseigneur Ali, pour terminer, juste un mot sur deux journées diocésaines proposées par le service diocésain de la pastorale des jeunes. Nous sommes dans l'année des JMJ. Alors, il y aura un rassemblement pour les 15-30 ans. C'est le rassemblement qui correspond au dimanche des rameaux d'habitude, mais cette année ce sera le samedi 26 mars à Pau. Il y aura également un rassemblement le 9 avril à Saint-Palais pour les adolescents, pour les 4e, 3e.
Voilà, donc le 26 mars à Pau, ce sont les JMJ diocésaines, qui seront, j'espère, une rampe de lancement pour les JMJ internationales à Madrid en août prochain, pour lesquelles nous sommes toujours très mobilisés pour l'accueil de groupes de jeunes étrangers dans la semaine qui précède, et puis qui se passera autour du témoignage du père René Luc, que l'on connaît bien, et qui est un témoignage tout à fait impressionnant et qui peut en effet susciter beaucoup d'enthousiasme auprès de ces jeunes. Il y aura d'ailleurs une délégation aussi de Saint-Sébastien, puisque vous savez que nous avions accueilli dans le diocèse de Saint-Sébastien, avec une délégation des jeunes de ce diocèse et de notre diocèse, et l'évêque du diocèse, la croix des JMJ, au mois de septembre dernier. Et puis le 9 avril, ça c'est une innovation, puisque vous savez que depuis cette année, les 4e, 3e, et essentiellement ceux qui sont déjà confirmés, sont passés dans la pastorale des jeunes, et donc la pastorale des jeunes organise aussi une journée de rencontres, de partage, d'amitié, de prière, le 9 avril, que je présiderai évidemment avec eux, à Saint-Palais.
Voilà, et rappelons à ceux qui nous écoutent qu'il y aura une quête impérée, c'est-à-dire une quête qui sera destinée à aider à l'organisation des JMJ, des Journées Mondiales de la Jeunesse, le 26 et 27 mars.
Voilà, et avec même un appel de dons pour pouvoir élargir encore le nombre des donateurs pour les jeunes. Vous voyez bien que c'est une priorité. Je crois qu'il y a des dons, des collectes qui se font, qui sont différentes. Il ne faut pas s'étonner, mais je pense que ça peut toucher aussi différents types de donateurs, mieux les cibler, et donc augmenter nos moyens pour pouvoir être à la hauteur de notre pastoral, en particulier auprès des jeunes.
Merci beaucoup, Monseigneur Ayé. Nous espérons vous retrouver quelques jours avant la Semaine Sainte, donc début avril. En attendant, un bon carême à tous, et merci également à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication.
Merci d'avoir suivi cet entretien avec notre évêque, Mgr Marc Ayé. Entretien enregistré à l'évêché de Bayonne le 9 mars 2011. Nous vous renouvelons nos excuses pour la qualité très moyenne de cet enregistrement.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.